Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 29 Ordibehesht, 1401 du calendrier iranien, 19 mai 2022. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. La résistance est prête à combattre Israël à Gaza et dans tous les territoires occupés, ont annoncé les brigades Al-Quds. Le président Raisi met l'accent sur l'utilisation de divers potentiels pour la coopération bilatérale irano-cubaine. Le Hamas met Israël en garde contre la reprise des assassinats ciblés de dirigeants de la résistance palestinienne. Et au Liban, le Hezbollah salue les résultats des législatives et appelle au partenariat et à la coopération. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président de la République islamique d'Iran décrit les relations irano-cubaines de stratégiques, affirmant qu'il existe diverses raisons pour l'expansion des relations entre les deux pays. Ebrahim Raisi a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le vice-premier ministre cubain Ricardo Cabrissas en visite à Téhéran. Monsieur Raisi a dit que Téhéran était déterminé à développer des relations avec des pays indépendants comme Cuba, qui s'opposent aux exigences maximalistes et excessives de l'arrogance mondiale. Le président iranien a qualifié les relations entre Téhéran et La Havane de positives et de constructives. Il a ajouté que les deux pays peuvent renforcer la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'économie, l'agriculture et la santé. Pour sa part, le vice-premier ministre cubain a déclaré que les relations stratégiques entre les deux parties peuvent être élargies grâce à des plans à court et à long terme. La République islamique d'Iran et Cuba sont depuis des années sous des sanctions américaines. Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a averti que toute tentative d'Israël d'assassiner des dirigeants de la résistance palestinienne conduirait à un conflit total dans la région. Ismail Haniyeh a émis l'avertissement dans des lettres envoyées aux dirigeants de nombreux pays de la région. Selon son conseiller médiatique, Haniyeh a exhorté les pays à mettre en garde le régime israélien et ses dirigeants contre le retour à sa politique d'assassinat et de liquidation. il a souligné que le régime occupant paierait un prix inattendu s'il allait de l'avant avec son plan. Cela après que les médias israéliens ont récemment cité des sources militaires de haut rang disant que l'assassinat de hauts responsables du Hamas est toujours une option pour le régime sioniste. Des rapports indiquent que le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, et le commandant de la branche armée des brigades Qassam, Mohammad Deif, sont des cibles évidentes des forces israéliennes. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a salué les résultats des élections législatives de son pays, le qualifiant de grande victoire pour le front de résistance. Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a déclaré que les gains du Hezbollah et de ses alliés aux élections législatives du Liban montrent que le peuple libanais soutient la résistance et veut qu'elle garde ses armes. Il a également félicité le peuple libanais pour sa participation massive au processus électoral, malgré tous les bouleversements et crises économiques, sociaux et politiques. Pour Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, l'enthousiasme et la participation des électeurs montraient que des 3 années de campagne médiatique d'intoxication pour saper le scrutin et boycotter le vote étaient inutiles. Seyed Hassan Nasrallah a également déclaré qu'aucun camp politique ne peut prétendre détenir la majorité parlementaire et il a appelé au partenariat et à la coopération parmi les différentes parties libanaises. Le Hezbollah et ses alliés ont remporté 62 sièges sur les 128 membres de l'Assemblée libanaise. 13 sièges sont également allés à des candidats indépendants qui n'ont pas encore choisi de bloc. Les brigades Al-Quds, qui sont la branche armée du mouvement du djihad islamique de la Palestine, affirment que leurs forces restent prêtes à affronter le régime israélien. Le groupe de résistance s'est dit prêt à une guerre avec Tel Aviv dans la bande de Gaza, Jenin ou d'autres parties des territoires occupés palestiniens. Il s'est engagé à poursuivre la résistance jusqu'à la libération de toutes les terres palestiniennes. Selon les brigades Al-Quds, la résistance palestinienne, plus déterminée que jamais, a su se renforcer et mieux équipée au cours de l'année écoulée et reste prête à repousser toute attaque israélienne. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. La Russie affirme que près de 700 combattants ukrainiens supplémentaires se sont rendus dans les usines d'Azovstal, leur dernier bastion, dans la ville de Mariupol. Cela porte à 960 le nombre de militaires de l'usine qui ont déposé leurs armes après y avoir été piégés pendant plus de 2 mois. Cependant, Moscou affirme qu'un millier de soldats ukrainiens, dont des commandants supérieurs, se battent toujours à Mariupol. La ville est la plus grande que la Russie ait envahie jusqu'à présent dans la guerre qui a commencé le 24 février. Un législateur sud-coréen avertit que la Corée du Nord a achevé les préparatifs en vue d'un essai nucléaire, et cela à tout moment. Les images satellites indiquent que la Corée du Nord se prépare à effectuer un essai nucléaire. Selon la Corée du Sud et les États-Unis, il peut avoir lieu à tout moment. La Corée du Nord a achevé les préparatifs en vue d'un essai nucléaire et attend maintenant le meilleur moment pour le réaliser, a déclaré un député sud-coréen la veille de la visite du président américain Joe Biden à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Il s'agit de la première visite de Biden en tant que président des États-Unis en Asie. Et les services de renseignement américains disent qu'il est possible que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un organise une provocation après l'arrivée du président Joe Biden à Séoul vendredi soir. Les États-Unis et la Corée du Nord sont enfermés dans une impasse au sujet des essais de missiles et des essais nucléaires de Pyongyang, qualifiés par la Maison-Blanche de provocateurs. Mais la Corée du Nord soutient qu'il en a besoin pour se protéger face aux velléités maximalistes et interventionnistes des États-Unis, manière de maximiser les effets dissuasifs pour son pays qui fait l'objet des sanctions sévères depuis 2006. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique qui nous parlera des avertissements lancés par les brigades Al-Quds de la branche armée du mouvement du djihad islamique de la Palestine, affirmant que leurs forces restent prêtes à affronter le régime israélien. La résistance est prête à combattre Israël à Gaza et dans tous les territoires occupés, ont annoncé les brigades Al-Quds. Les brigades Al-Quds, branche militaire du mouvement de résistance du djihad islamique de la Palestine, se disent prêtes à combattre le régime sioniste dans la bande de Gaza, à Jenin et dans toutes les villes occupées de Cisjordanie, et aussi dans les territoires occupés en 1948, et annoncent qu'elles continueront de résister aux exactions et aux injustices du régime israélien jusqu'à la libération totale de la Palestine. Dans une déclaration marquant l'anniversaire de leur victoire dans la dernière guerre déclenchée par le régime israélien contre la bande de Gaza, l'opération Épée de Rots, les brigades Al-Quds ont déclaré qu'un an après la guerre des 11 jours, la résistance est devenue plus forte et mieux équipée et qu'elle est maintenant prête à repousser toute invasion ou bêtise de la part de l'ennemi israélien. Les forces de la résistance basées dans la bande de Gaza ont lancé l'opération Épée de Rots en mai 2021 pour défendre les Palestiniens de la ville occupée de Rots, Jérusalem, contre les atrocités et la profanation de la mosquée Al-Aqsa par Israël. Au cours de cette opération, des groupes de la résistance palestinienne ont submergé le régime israélien en tirant plus de 4000 roquettes et missiles sur des cibles sensibles des Israéliens dans les territoires occupés de la Palestine. Israël, choqué par le barrage sans précédent de roquettes depuis Gaza, a annoncé un cessez-le-feu unilatéral le 21 mai 2021, que les mouvements de résistance palestiniens ont accepté avec la médiation du gouvernement égyptien. Le communiqué indique que les brigades Al-Quds sont prêtes à tout sacrifice et tout combat contre l'ennemi sioniste dans la bande de Gaza, la ville de Jenin, en Cisjordanie, toutes les autres villes occupées palestiniennes, tant en Cisjordanie que dans les territoires occupés en 1948. L'ennemi sioniste a été complètement humilié lors de l'opération Épée de Rots et Tel Aviv a dissimulé de nombreux faits concernant ses défaites et ses pertes pendant cette guerre contre les forces de la résistance palestinienne, indique le communiqué des brigades Al-Quds, branche militaire du mouvement du djihad islamique de la Palestine. Le communiqué a ajouté « Les pertes et les dégâts infligés au régime sioniste au cours de l'opération Épée de Rots ont dépassé les chiffres annoncés dans les chaînes de télévision et autres médias du régime sioniste. Le djihad, la résistance et la mobilisation de toutes les forces sont les seules options pour les Palestiniens de libérer toutes les terres occupées de leur patrie, peut-on lire dans le communiqué des brigades Al-Quds du mouvement du djihad islamique de la Palestine. Dans une déclaration antérieure, publiée par les mouvements de résistance palestiniens basés dans la bande de Gaza le 10 mai, l'opération Épée de Rots a été considérée comme un tournant historique dans la confrontation des mouvements de résistance contre le régime israélien. L'opération Épée de Rots, ont déclaré les groupes de résistance, a modifié les règles d'engagement de telle sorte que désormais toute agression du régime sioniste serait ripostée tout de suite et avec fermeté.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le ministère libanais de l'Intérieur a annoncé les résultats définitifs des élections législatives de dimanche. En effet, 103 listes électorales regroupant 718 candidats répartis sur 15 circonscriptions électorales étaient en lice pour désigner en effet, pour obtenir plutôt 128 sièges du Parlement. Selon le ministère libanais de l'Intérieur, le Hezbollah et ses alliés ont remporté 62 sièges et les candidats indépendants ont remporté au moins 13 des 128 sièges de l'Assemblée libanaise. Ce qui montre que, en effet, ces résultats ont laissé le Parlement divisé en plusieurs camps, aucun d'entre eux n'ayant obtenu la majorité absolue. Quant au taux de participation, selon le ministère libanais de l'Intérieur, la participation atteint plus de 41%. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les principaux enjeux de ce scrutin législatif au Liban, la perspective de la formation du nouveau Parlement et, bien entendu, l'impact de cette polarisation sur la situation politique et économique au Liban. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors des festivités organisées lundi après-midi dans la ville de Nabatiya, au sud du Liban, pour célébrer la victoire foudroyante de la liste électorale du Hezbollah et du mouvement Amal dans la circonscription sud Liban 3, l'élu Mohamed Raad a adressé une mise en garde aux adversaires du Hezbollah, notamment au parti des forces libanaises de Samir Djaja. Si vous ne voulez pas collaborer avec vos partenaires dans l'enceinte parlementaire, cela veut dire que vous voulez isoler de nouveau et conduire le Liban vers le pire. C'est ce à quoi planifient les Israéliens et les Américains. Faites attention à ne pas être le combustible d'une guerre civile vers laquelle les Israéliens veulent vous conduire dans ce pays, a-t-il dit. Il a ajouté à nos adversaires politiques qui se targuent d'avoir remporté le scrutin sans preuve à l'appui, nous leur disons, nous vous accepterons en tant qu'adversaire dans l'enceinte parlementaire, mais nous n'admettrons jamais que vous soyez les boucliers des Israéliens et de ceux qui sont derrière eux. En partant de ce principe, faites attention à votre discours, à votre comportement politique et à l'avenir de votre pays. Nous aspirons à l'unité nationale et à la cohabitation. Nous tendons les bras pour sauver notre pays que personne ne peut faire chanter ni faire plier. Si vous voulez être nos partenaires, vous serez les bienvenus. Sinon, faites attention vers où vous allez conduire le pays. La paix civile est une ligne rouge. Ne laissez pas les ennemis et les adversaires de ce pays vous inciter à jouer le jeu de saboter la paix civile. Parce que nous pressentons ceci dans vos positions et les déclarations exprimées par les médiocres parmi vous. Les grands pourraient se tromper, suivre les médiocres à un moment donné. Et de conclure son intervention, nous vous disons encore une fois, ne faites pas de nouveau de mauvais calculs. Soyez sur vos gardes, soyez sur vos gardes. À noter que le député Mohamed Raad, qui a été le chef du bloc parlementaire du Hezbollah entre 2018 et 2022, a obtenu le score le plus important à l'échelle de tout le Liban avec plus de 46 000 voix. Il s'était présenté à la tête d'une liste mixte formée de membres du Hezbollah et du mouvement Hamal dans la circonscription Sud-Liban 3. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, trois autres candidats du Hezbollah dont trois autres circonscriptions électorales ont aussi obtenu le score le plus important en chiffre d'électeurs.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, toujours un plaisir.
Alors, sur la scène politique libanaise, en apparence, rien n'a bougé. Les résultats montrent un certain statu quo en faveur de la classe politique traditionnelle. En d'autres termes, le Parlement sera constitué par les partis et figures traditionnelles. Alors, quel premier regard, Maître Develet, portez-vous sur ce scrutin législatif au Liban ?
Bien, écoutez, le discours du secrétaire général du Hezbollah, pour moi, résume très bien la situation, c'est-à-dire qu'il prend acte de la recomposition politique, à savoir que la coalition sortante a perdu la majorité au Parlement, bien qu'elle elle reste le groupe, le bloc le plus majoritaire au sein de cette Assemblée. Et à la lumière des défis qui confrontent le Liban, il tend la main et laisse entendre que toutes les partisaneries politiques devraient être mises de côté au nom du bien commun et dans l'intérêt du peuple libanais. Et il met en garde effectivement contre toute instrumentalisation de la recomposition politique qui pourrait servir effectivement les ennemis du Liban, et le Liban en a beaucoup. Voilà, c'est un peu la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, avec une assemblée qui, plus ou moins, peu ou prou, exhibe trois groupes. Donc, comme je l'ai dit, le bloc de la coalition sortante, qui, si elle a perdu la majorité institutionnelle au sein du Parlement, reste quand même de manière significative le bloc le plus important. Un bloc opposé, alors qu'on pourrait dire quelque part qui se satellise autour des forces libanaises de Samir Jaja, dont le parti a gagné 4 voix par rapport à 2018, qui, bon gré mal gré, est quand même perçu comme l'homme des Saoudiens, quoi qu'on puisse en dire, qui a un passé lui-même sulfureux et qui a entretenu une rhétorique extrêmement on va dire, non productifs ces derniers mois, une campagne extrêmement violente dans la rhétorique, avec des violences orchestrées plus ou moins par ses partisans, des provocations. Et malheureusement, on peut penser qu'il n'est pas lui-même autonome, c'est-à-dire qu'en fait, il est financé de l'extérieur et ses financiers attendent de lui certaines actions. Quelles sont ces actions ? On peut penser que ce seront des actions qui auront pour objectif de freiner toute forme d'avancée dans les dossiers les plus importants du pays, en mettant l'accent sur le fait que si ces dossiers ne peuvent pas être traités, cela en revient au fait que la résistance refuse, par exemple, de poser les armes. Donc, malheureusement, je ne suis pas trop optimiste. C'est une situation qui, de manière générale, n'est pas très bonne pour dans n'importe quel pays. Mais dans un pays comme le Liban, où les dossiers en attente sont urgents et méritent une action politique décisive claire, on peut penser que cette espèce de statu quo sans majorité au Parlement des trois blocs, ne peut que mener à de l'immobilisme et du blocage institutionnel.
Merci infiniment pour ces précisions. Maître Deveux, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Codabandé. Bonjour à tous vos auditeurs et à notre ami Maître Deveux.
Monsieur le professeur, aucune majorité nette ne s'est dégagée des récentes élections législatives au Liban. Donc là, le Parlement risque d'être plus polarisé que jamais. Le Hezbollah a appelé à la coexistence dans le sens des intérêts du peuple libanais, de l'unité libanaise. Mais comme Maître Develet l'a rappelé, bien sûr, avec Samir Djaja et sa rhétorique contre-productive et violente, est-ce que cette polarisation ne risque pas de provoquer des blocages politiques et de paralyser le Liban ?
Bien sûr que si. Et c'est pour ça que le Liban risque, bien sûr, d'être la proie de troubles, plutôt risque d'être incapable de faire face à des mesures draconiennes, c'est-à-dire des mesures fermes, qui pourraient, disons, diminuer l'impact de la crise économique locale et, disons, faire face, et, disons, entreprendre des mesures, disons, qui soient acceptables. Je crois que là, il y a de la part des adversaires du Hezbollah un déficit patriotique. Je ne dis pas politique, car ils ont l'art politique avec eux, mais ils ont trop de politique, si je puis dire, et pas assez de vue nationale. Est-ce que cela fait... Bien sûr, c'est... Bon, M. Jaja est un client de l'Arabie Saoudite, ça, chacun le sait. En France, beaucoup de gens aussi associent son nom, disons, à ses influences. Influences matérielles, vous voyez, influences locales, matérielles, mais qui n'ont pas, justement, une perspective réellement nationale. Voilà. C'est cela qui fait le malheur du Liban. Et dans cette perspective, le discours de M. Nasrallah, disons, est un avertissement, en même temps qu'une maîtrise, qui montre une maîtrise de lui-même. Je trouve que c'est ça qui est remarquable. Et un exemple, si je puis dire. Exemple d'accommodement, exemple de vision supérieure, si je puis dire. Il ne cherche pas un petit futur. Il cherche une stabilisation. Et disons qu'on ne peut que l'approuver, bien sûr. Vous savez, les forces qui sont derrière cela, sont les forces israéliennes, bien sûr. Et elles cherchent, elles, à vivre dans une perpétuelle déstabilisation. Voyez-vous, en profiter. Elles ne visent pas à construire avec un adversaire. Elles visent à maintenir un certain niveau, disons, d'instabilité, je le répète. Et donc, il faudrait que sur ce national, cette attitude au-dessus des partis. Nous-mêmes en France, nous avons connu un peu ce problème avec l'ancien régime, la 4e République. Mais évidemment, c'est avec au Liban, les formes ont été encore plus dramatiques. malheureusement, moi qui ai connu aussi cette période libanaise de guerre civile, je trouve que il n'y a pas eu de maturité de la part des partis politiques, sauf, disons, le Hezbollah.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, monsieur le professeur. Maître Develay, alors, pour reprendre ce terme de monsieur le professeur d'Ortiguier, ce déficit, en effet, patriotique, qui a été malheureusement illustré par le taux de participation de 41%. Alors, sur le paysage, sur le plan de politique intérieure, il paraît que c'est le danger de la déstabilisation, de la persistance des tensions. Dans quelle mesure, alors, ce déficit patriotique, cette polarisation au Parlement pourrait, en effet, favoriser les ingérences des puissances étrangères qui pourraient, en effet, chercher à pêcher en eau trouble?
Regardez la stratégie comme étant la suivante, à savoir que la situation économique présente depuis octobre 2019, qu'il y a eu entre-temps, bien sûr, cette explosion au port de Beyrouth, avec toutes les implications judiciaires que l'on sait, où l'enquête n'avance pas. On sent qu'il y a des coups de téléphone qui sont passés pour essayer de protéger certaines personnes. Donc, les institutions ne fonctionnent pas bien. Quand les juges essayent de faire leur travail, ils sont eux-mêmes réprimandés par leur hiérarchie. Donc, on voit bien un pays qui ne fonctionne pas au sens propre par rapport à ses mécanismes internes. Et la peur, c'est qu'avec une situation de stratégie d'attention et un pourrissement sur la durée, on assiste à un recroquevillement des citoyens sur ce qui fait le Liban, à savoir 18 sectes, hein, donc un repli communautaire. Et cela viendrait bien sûr aux dépens de l'unité nationale. Et c'est ça le vrai danger. Parce que les urgences au quotidien sont là. Et quelque part, si ce groupe de 13 personnes, Tarawa, qui se présente comme une nouvelle génération, qui veut un peu remettre de l'ordre dans le paysage politique actuel, mais enfin, il ne constitue pas un groupe en tant que tel. Et donc, à un moment donné, parmi ces 13 parlementaires, il y aura des cas de conscience. Et face à des dossiers qui porteront, par exemple, sur des mesures qui viseraient à voir le pays pivoter vers l'Est ou alors, au contraire, se plier aux injonctions du Fonds monétaire international, par exemple, et des recommandations du Club de Paris, je pense que c'est sur cette base-là précise que dans un premier temps en tout cas, et on l'espère, ça ne sortira pas du cadre parlementaire, mais ces 13 parlementaires ont bien sûr l'objet de pression et du bloc dirigé par Jaja et de la coalition sortante pour essayer d'obtenir sur certains dossiers les votes nécessaires pour faire passer et avancer l'agenda qui bénéficierait au pays. Et je pense que ça va être une guerre de tous les instants avec tous les rebondissements que l'on connaît qui caractérisent la scène politique libanaise. En tout cas, voilà, c'est malheureusement une situation à laquelle nous sommes maintenant confrontés. Et il faudra faire preuve de grande vigilance parce que l'objectif, je pense, encore une fois, c'est perpétuer le pourrissement politique de telle sorte que le pays devienne complètement ingouvernable et que les pires démons d'antan ressortent.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur le professeur d'Ortiguier, donc là, sur le plan politique et économique, on assiste à un dysfonctionnement, malheureusement. Toutefois, alors, le Hezbollah, que ce soit au Parlement ou bien sur la scène politique, même militaire et défensive du Liban, reste la carte la plus forte du pays. Ceci étant dit, alors, quelle sera la prochaine étape des pressions occidentales, y compris les États-Unis et la France, sur le Liban?
La pression ne peut être que matérielle et monétaire. Elle sera une pression de cet ordre économique. Il y a aussi une deuxième conséquence, c'est une conséquence qui est liée, à notre avis, à la formation même du protectorat du Liban sur la chute de l'Empire ottoman, et à savoir la guerre, la lutte incessante des factions religieuse. C'est-à-dire que, alors que, je me permets de faire cette comparaison, qui n'est pas une idéalisation, mais une réalité, alors que pendant le temps des siècles, au tout au moins 18e, 19e, nous avons eu une certaine relation politique entre les groupes, les communautés, celle-ci s'est perdue au fur et à mesure que le protectorat français s'instaurait, que le mandat anglo-sioniste en Palestine se forgeait, etc. La même chose également en Syrie. Eh bien, je crois que cette décolonisation, si le mot peut être un peu lourd, mais le Liban n'a jamais été entamé, n'a jamais été abordé. Il y avait une possibilité pour les élites libanaises de partir en Afrique, de suivre un peu la colonisation française ou autre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, le Liban est confronté avec ses propres, on dit ses propres démons. Non, c'est la réalité. Il faut une coexistence entre communautés. Cette coexistence, elle a existé pendant des siècles. C'est ce que je veux souligner. Pourquoi n'existe-t-elle plus? Parce que vous avez des gens qui manquent de courage. Et qui manquent de courage, j'explique très bien dans un État qui sort de la guerre civile et qui est au bord d'y retourner. Alors, je crois que il faudrait que le Liban soit entraîné par un mouvement qui soit extérieur à lui, qui soit propre à l'Orient. Je ne vois pas ce mouvement. La guerre en Syrie dure encore. Et l'entité sioniste, qui paraît toujours ballottée entre l'Est et l'Ouest, et tient les deux comme un cocher tient les chevaux, vous voyez. Je crois qu'elle a malheureusement une influence terroriste, disons, sur le pays. Terroriste au sens large du terme, à savoir terrorisme personnel, pression morale, financière, etc. Sur des élites réelles, mais des élites paralysées. Voilà. Et je crois que le premier remède, si je puis dire, pour prendre un médecin, serait que d'autres pays arabes, musulmans, puissent venir au secours du Liban sur le plan politique. Voyez-vous. Et ceci, je ne le vois pas. Je ne vois que la grande figure du Hezbollah, bien sûr, mais qui elle-même, voyez-vous, n'atteint quand même que, mettons, 40, ne dépasse pas les 50% de la population. Voyez-vous, elle est ferme. Le Hezbollah est très dans les pays, mais est sain à l'intérieur. Il est limité et enchaîné par la peur et l'incapacité politique de notre confession.
Merci encore, Monsieur le professeur Dortiguier. Une toute dernière question à Maître Develet. Maître Develet, il paraît donc que alors les pressions occidentales vont durcir sur le Liban dans le cadre des prétendues réformes économiques. Et on sait très bien, en effet, quelle est la principale raison, en effet, de ces réformes, que ce soit de la part des États-Unis ou surtout de la France, par le biais du Fonds monétaire international ou encore de la Banque mondiale. Mais quant aux évolutions relatives aux tensions entre le Liban et Israël, est-ce que là, il faudrait s'attendre à un nouveau projet, un nouveau scénario de la part du tandem américano-sioniste?
Moi, je pense surtout que nous allons voir une continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent, avec probablement des tentatives répétées à nouveau d'essayer de forcer le Liban à normaliser avec l'entité sioniste, en toile de fond, la possibilité d'avoir accès au forage gazier, parce que quelque part, c'est la solution toute trouvée. Le Liban peut devenir un exportateur en termes d'énergie et rembourser ses dettes et, ce faisant, raffermir sa souveraineté. Le problème, c'est que, de toute évidence, le prix politique à payer est complètement inconcevable. Et donc, quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue. Et on peut penser que, avec les législatives maintenant derrière nous, la prochaine étape, si je puis dire, de ce durcissement, de ce pourrissement politique, aura pour toile de fond l'élection du président de la République, donc l'année prochaine. On sait que le général Aoun va passer la main, si je puis dire. Et déjà, on peut commencer à distinguer les contours de ce qui s'annonce comme une lutte acharnée. Samir Jaja, en vertu du fait qu'il est devenu, selon lui, le chef de file de la formation chrétienne la plus représentée au Parlement, va probablement essayer de s'appuyer sur la Constitution pour exiger que la présidence lui soit confiée. Nous verrons comment cela va se jouer, puisque de toute façon, pour être élu président, il faut pas seulement compter sur sa base, mais aussi avec des alliances. Et en cela, on peut penser que le président du CPL est lui aussi très bien placé. Maintenant, il a aussi, du côté de la coalition sortante, un prétendant. Le secrétaire général du Hezbollah avait invité les deux putatifs candidats à la présidentielle assimilés à la coalition sortante à venir discuter avec lui il y a quelques semaines. Il s'est bien gardé de donner son aval à l'un ou à l'autre parce qu'il a compris que ce sera de toute façon chaque bataille doit être ou chaque défi doit être géré en son temps, en temps utile. Mais voyez, il y a déjà tous les contours pour un blocage institutionnel, une exacerbation du blocage politique et partant de là, une frustration.
Merci.
Et l'exaspération du peuple libanais. Il faut se méfier de tout cela.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Cette deuxième édition, dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. La voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, dit « Celui qui se laisse emporter par la cupidité se résigne à être méprisé. Celui qui révèle ses problèmes auprès des autres se résigne à être humilié. Et celui qui se laisse diriger par sa langue se résigne à la médiocrité. » Dieu le Très-Haut a créé l'homme et lui a accordé la dignité plus que toutes ses autres créatures afin d'en faire son calife, son successeur sur la terre. C'est pourquoi, dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré Imam Ali, béni soit-il, souligne que l'être humain n'a pas le droit de se faire mépriser et humilier par ses actes, ses dires et ses sentiments. Cela nous apprend aussi que personne n'a le droit de piétiner volontairement sa dignité humaine, de mentir, de trahir ses amis, ses proches et ses camarades, de voler, de discriminer, pour arriver à un quelconque intérêt matériel, pour obtenir une place ou un poste, ou pour gagner des richesses. Cette leçon morale de la voix de l'éloquence du vénéré Imam Ali, béni soit-il, nous apprend aussi que personne ne doit s'abstenir d'aider son prochain de peur de perdre son argent ou ses biens. Il est interdit à l'être humain de sacrifier la justice et la vérité pour gagner des richesses ou du pouvoir. Personne n'a donc le droit de piétiner sa dignité et son essence humaine. La voix de l'éloquence, le vénéré Imam Ali, béni soit-il, dit « Celui qui se laisse emporter par la cupidité se résigne à être méprisé. Celui qui révèle ses problèmes auprès des autres se résigne à être humilié. Et celui qui se laisse diriger par sa langue se résigne à la médiocrité. » Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré Imam Ali, béni soit-il, souligne que la cupidité, la discrétion et le manque de la maîtrise de la langue sont des vices qui abaissent l'être humain et le soumettent au mépris et l'humiliation des autres et même de lui-même. La cupidité et le désir immodéré d'argent, de richesse et des biens de ce monde. La cupidité de richesse et du pouvoir peut faire sortir les gens du droit chemin de sorte qu'ils soient prêts à vendre leur dignité pour les obtenir. Le détachement des biens du monde est par contre une vertu qui détruit la cupidité dans le cœur des gens et le rend réceptif pour toutes les autres vertus. Parfois, il vaut mieux se taire au lieu de révéler les secrets. La révélation des secrets et des problèmes est en quelque sorte l'acceptation de l'humiliation par les autres qui le considéreront comme un signe de faiblesse et de l'incapacité. Au lieu de le faire, il faut que nous nous confions à Dieu et lui demander aide et protection et ne pas partager nos problèmes qu'avec nos plus proches amis et parents. Thank you.
Thank you.